Alors, avec Mathieu, on a un petit peu discuté de la suite de son excellente étude biblique que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt sur le racisme. En l'occurrence, sur l'absence de racisme dans la Bible, hein, puisque c'est tous les arguments que certains utilisent dans la Bible pour fonder leur pratique du racisme en tant que chrétien ont été savamment, brillamment démontés. Lors de l'étude d'il y a 15 jours, c'est ça?
3 semaines,
je ne sais plus. Et donc, un grand merci, bravo. C'est une base indispensable de savoir déjà de quoi on parle et que toutes ces manières tendancieuses de citer la Bible ne sont pas justifiées. Donc, je trouve que c'est une excellente base. Peut-être que le pas suivant, c'est de voir ce qu'on fait, de voir si nous avons des progrès à faire, de prendre conscience de certaines choses, et c'est là l'approche que je vous propose. Mais je ne suis pas tout seul, il y a Adeline qui va nous dire un mot de témoignage dans un instant, et tu prendras la parole à la fin, c'est toujours... écoute, en tout cas, j'ai marqué Adeline à la fin de mes notes, donc voilà... nous nous inscrivons, une fois qu'on a dit que la Bible ne parle pas de racisme, et surtout, si elle en parle, elle ne le fonde pas dans notre conduite, ça n'empêche pas que nous nous situons dans une société qui connaît le racisme. Nous avons une histoire, y compris une histoire religieuse, qui a intégré des pratiques racistes dans ses actions. Et puis, nous avons une politique chargé dans l'actualité, qui reste sensible dans l'actualité et qui dans l'histoire est chargée. Mais nous avons aussi de très beaux progrès. Il ne faut pas non plus toujours dire tout va mal. Non, on a fait d'énormes progrès en matière de lutte contre le racisme. Ce que, par exemple, nous, mon épouse et moi, nous vivons en tant que couple mixte, on ne l'aurait pas vécu il y a, si on était de la génération précédente. Ça aurait été beaucoup plus compliqué que ce que ça l'est, que ce que c'est maintenant. D'ailleurs, maintenant, on ne peut pas dire que ce soit compliqué, en fait. En tout cas, pour cette raison-là. Peut-être pour d'autres, mais là, c'est un autre domaine. Bref. Je vais tout de suite donner la parole à Adeline, donc, pour donner un témoignage, pour entrer en matière.
Moi, je trouve que ce sont des questions qui touchent à notre identité et que souvent les questions qui touchent à l'identité sont les plus profondes, les plus belles peut-être aussi, mais aussi parfois les plus douloureuses. Et donc, c'est vrai que j'ai aussi un petit peu poussé pour qu'on en reparle et qu'on en discute, pas seulement de ce que la Bible dit, mais qu'est-ce que ça réveille chez nous. Et Mathieu, toujours dans une prédication récente, tu as dit que les non-chrétiens, des fois, ils sont plus avancés que nous sur certaines questions. Et c'est vrai que dans notre confession de foi, il est noté que la Bible est notre seule règle de foi et de vie, et donc que toute la Bible est vérité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité en dehors de la Bible. Et alors je dis ça... Peut-être pas seulement pour notre petit cercle, mais aussi peut-être après, quand l'étude peut-être sera sur Internet. Et pour preuve, on trouve dans la Bible des allusions à ce que des non-croyants ont dit. Il y a des proverbes d'origine égyptienne dans le livre biblique des proverbes. Paul cite des auteurs grecs, Jude cite un auteur apocryphe, bref. Alors moi, c'est pour tout ça pour dire que moi j'ai avancé personnellement sur cette question grâce à des sources non bibliques. Ça a pu être des commentaires, des documentaires, notamment sur Arte, des articles dans certains journaux. Et du coup, ça m'a fait bouger. Autour de la pandémie, je me suis quelquefois exprimée sur Facebook. C'était la période où j'écrivais sur Facebook. Et j'ai fait un post notamment sur cette question-là du racisme. Alors, l'élément déclencheur, ça a été justement un article de Lilian Thuram. Donc, qui a fait beaucoup de. Donc, c'était un champion du monde hein, de foot de 98 et qui a fait beaucoup de pédagogie autour de cette question-là. Puis donc, j'ai lu un article de lui qui m'a fait tilt. Et je vous lis un extrait de cet article. Donc, Lilian Thuram est noir. Enfin, voilà. Donc, il écrit: J'ai demandé à un ami d'enfance blanc de quelle couleur j'étais. Il m'a répondu « noir ». C'était une évidence. Je lui ai demandé ensuite de quelle couleur il était lui, et il m'a répondu « je suis normal ». Il n'y a rien de méchant dans ce qu'il m'a dit, mais cela montre à quel point il a été éduqué à se penser comme étant la norme. Voilà, il y avait encore d'autres choses dans cet article. Mais du coup, ça a fait... Voilà, du coup, après, moi, j'ai écrit. Donc, je vous lis un extrait de ce que j'ai mis sur Facebook. Le titre, c'était « Je ne suis pas raciste, mais trois petits points de suspension ». Donc, c'est une phrase qu'on peut entendre souvent. Et donc, voilà, le petit texte. « Ceux qui nous donnent la vie et prennent soin de nous, nous transmettent des trésors. De quoi être adapté à la vie ? Des bienfaits inestimables et innombrables à reconnaître comme tels. Et puis aussi parfois du poison. Voici ce qu'on m'a dit il y a 40 ans environ. Les Noirs ne sont pas tout à fait comme nous. Par exemple, ils n'arrivent pas à dire le son R comme nous correctement. Voilà ce que m'a transmis mon héros, celui qui savait, à la petite fille de peut-être 5 ans que j'étais, et qui apprenait le monde à travers son regard. Pourquoi ne pas avoir parlé d'un accent différent, comme l'accent belge ou celui du Midi ou l'accent alsacien ? Non, cette différence de prononciation était comprise et expliquée comme étant une incapacité à faire comme nous, les Blancs. Donc les Noirs nous étaient inférieurs. Il n'y avait pas de haine dans notre foyer pour une ou des catégories de personnes. Il n'y avait pas de vote FN et Martin Luther King était un héros. Merci maman. On avait des relations cordiales avec des personnes de couleur. J'avais des amis noirs. Mais voilà, quand même toujours planté au fond de moi l'évidence qu'il y avait une différence d'avec nous. Voilà, le texte il continue, mais je m'arrête là pour ça. Et donc en fait, voilà, ben, des situations où j'étais mal à l'aise par rapport à ce qu'on m'avait appris, comme dit les articles, des reportages, d'autres choses, m'ont conduit à déconstruire et à questionner ce que j'avais reçu. Et je pense que... Ouais, bon. Alors, j'ai pas eu le temps beaucoup pour préparer hein, cette...
C'est un peu de ma faute.
Oui, alors, quand on déconstruit notre façon de voir le monde, il peut y avoir différentes façons de réagir par rapport à ça. Et d'après ce que j'ai pu voir, je ne suis pas une experte, mais bon, je traîne beaucoup sur Internet, peut-être probablement un peu trop. Mais parfois, des personnes qui arrivent à déconstruire des représentations et puis à découvrir de nouvelles choses, quand c'est des personnes non chrétiennes, après, elles se sentent fières de ça, elles en tirent un certain orgueil et une nouvelle identité. Moi, je trouve qu'en tant que chrétien, on a quelque chose de beau, vraiment de magnifique par rapport à la déconstruction et puis reconstruction, c'est que en fait, on est en sécurité et notre identité première, elle est en Dieu. Et donc, en fait, quand on se rend compte qu'on a mal compris certaines choses ou que voilà, on était dans l'erreur et puis on est vraiment en sécurité de pouvoir reconstruire quelque chose de plus vrai, hein, parce que la vraie vérité, on la connaîtra sur la nouvelle terre. Mais vraiment de se rapprocher de la vérité, même si ça peut être douloureux de laisser tomber certaines choses qu'on pensait être la vérité, on est en sécurité. Donc on peut vraiment y aller par rapport à tout ce que Mathieu, tu nous as dit la semaine dernière. Si on a des choses à changer, si on pense qu'en tant que blanc, on est la norme, ben, on peut changer ça et puis on est en sécurité pour le faire. Donc moi, je trouve que c'est un immense cadeau, un privilège que Dieu nous permet comme ça d'avancer. Ça peut être une étape qu'il a prévue pour nous, quoi. Alors, j'ai encore un point. Oui, il y a des différences entre nous. Et je pense que tu le diras aussi, Jean-Marc. Il y a beaucoup, beaucoup de différences entre nous. Voilà, mais ce sont des différences de culture, d'histoire, de personnalité. Et qu'on arrête de penser que ce sont des différences de nature. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire.
Merci Adeline. Merci. Des réactions ? Comme on est autour d'une table de débat, hein, je ne veux pas dire une table ronde, mais un peu quand même. Donc, sentez-vous libre de réagir. C'est un peu l'idée que je retiens. Hein. Mathieu a fait quelque part un exposé magistral à tous les sens du terme. Et maintenant, on peut disposer de ce qui nous a été dit. Donc on peut, la parole peut circuler plus librement. Bon, ceci dit, c'est pas obligé. Hein. Je vous propose trois points dans une approche que j'appellerais une approche pastorale du racisme. Oui, il faut mieux le tourner.
Ça capte bien quand même. Hein. Ouais, ok. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors, en fait, ma Bible ne va pas servir trop ce soir. Donc, là, elle sert de support. Voilà, mais les textes bibliques ont été lus la dernière fois. Hein, donc là, je ne vais pas trop y revenir. Je vous propose un premier point, l'Église et la mémoire. Deuxième point, l'Église et le racisme. Et troisième point, l'Église et les cultures. Petit clin d'œil à ce que tu viens de dire, Adeline. Voilà. Alors, l'Église et la mémoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du wokisme. Ça vous dit quelque chose ? Ça vient d'un mot anglais qui veut dire être réveillé. Et c'est un mouvement que je trouve intéressant, même si il y a des extrêmes dans lesquels je ne souhaite pas aller. Mais je trouvais que c'était un... On réveille, c'est quelque chose d'intéressant, on réveille la mémoire parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence, que de passer sous silence des choses douloureuses pour certaines personnes. Hein. Je vous propose, j'avais écrit un article une fois, je ne sais même plus où il a été publié. En tant que chrétien, je trouve ce mouvement intéressant pour ce que je peux en comprendre, parce qu'il dénonce des injustices. Et face aux injustices systémiques d'une société, il n'y a rien de pire que le silence. Le sommeil coupable que le woke, le réveillé, dénonce, c'est par exemple de passer sous silence les périodes de l'histoire occidentale marquées par les colonies et l'esclavage, c'est ce qui est profondément injuste. C'est intéressant que dans notre culture évangélique, on mette en lumière les héros de l'abolition de l'esclavage. Et on oublie qu'il y a eu, au nom de notre foi, des esclavagistes, des gens qui ont utilisé la Bible, alors peut-être pas notre foi baptiste, de la Bonne Nouvelle, j'espère, enfin, mais de manière plus générale quand même. Il y a eu des chrétiens qui, en tant que tels, ont pratiqué l'esclavage, et Matthieu, tu les citais hein, dans ton étude. De célébrer les hommes, par exemple, de dénoncer le silence endormi, de célébrer les hommes qui ont marqué l'histoire en oubliant qu'il y a eu aussi des femmes qui, elles, sont laissées dans l'ombre, par exemple. Hein, c'est aussi un des thèmes du wokisme. Alors, si ce sont en plus des femmes noires, alors là, elles disparaissent complètement de l'histoire. L'invisibilité des femmes dans l'histoire et des noirs. Si vous connaissez ce fameux film dont je ne sais jamais le titre, sur les calculatrices comment il s'appelle ce titre ? Film magnifique, hein, vous voyez ce que c'est, tant pis, je n'ai plus le titre, j'ai oublié de le citer. Il fait une calculatrice très très puissante, et c'était une femme noire.
C'était pour
les trajectoires des fusées, qui devait aller faire pipi à 800 mètres parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans les toilettes des Blancs et tout ça. Voilà. Une magnifique histoire, très dure. De laisser impunis aussi les violences racistes aujourd'hui, de les minimiser, de reporter la faute sur les victimes noires. C'est pas pour rien qu'il y a eu le Black Lives Matter, hein, les vies noires comptent. Il a fallu qu'il y ait un slogan, parce qu'il y avait un homme qui avait été étouffé par un policier blanc, il a fallu qu'il y ait ce slogan, les vies noires comptent, pour qu'on se rende compte qu'on a dû en venir là pour que les noirs, les personnes noires aient le droit d'exister dans la société, une existence dans la société. Dans la même mouvance que le wokisme, on discerne aujourd'hui la cancel culture ou la culture de l'effacement. On veut réécrire l'histoire. Là, je trouve qu'on commence à rentrer dans quelque chose qui est embêtant. Un ouvrage qui comporte des éléments racistes, on va l'éradiquer. Exemple, Tintin au Congo, par exemple, si vous connaissez le Tintin. On peut aussi mettre des personnes au banc de la société en raison du harcèlement dont elles se sont rendues coupables, etc. On déboulonne des statues pour cette raison-là, parce que la statue de ce personnage... Bah oui, mais ce personnage, il n'a pas lutté contre, ou il a même pratiqué l'esclavagisme. Il a fait pas de bonnes choses peut-être, mais il a lutté contre il a été esclavagiste, donc on le déboulonne. Et on veut plus en entendre parler. Il faut poser un regard critique sur le wokisme. Il dénonce les injustices, c'est bien, mais il y a aussi un goût de censure, d'intégrisme intellectuel, voire d'agressivité, qui est regrettable, à mon avis. Et dans notre Église, dans nos Églises, nous devons savoir avoir cet éveil de la mémoire de garder en mémoire, et c'est pour ça que j'appelle l'importance de la mémoire, garder en mémoire l'histoire nationale. S'il y a des Antillais parmi nous, ça doit nous rappeler, non pas juste les Antilles, ah, les noix de coco, les plages, les tropiques. Non, si des Antillais ont la nationalité française aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'esclavagisme, les amis. Et si aujourd'hui on a beaucoup de Maghrébins dans la population française, c'est parce qu'il y a eu la colonisation. Et donc tout ça, c'est des choses à savoir. Et nous, en tant qu'Église, je pense que c'est une bonne chose qu'on cultive ces mémoires-là. Pas de manière revancharde. Il y a un excellent article que Gordon Marjorie a écrit dans le lien fraternel de juin-juillet 2021, guérir de l'esclavage. Je vous le recommande. Il est disponible sur le site internet de l'association Baptiste. Mais ce sont des choses. Première idée, quoi faire, hein, connaître. Connaître l'histoire. Alors, à titre d'exemple, il n'y a pas qu'Adeline qui dit des choses non chrétiennes. Je vous indique par exemple un tiré à part du Nouvel Observateur pour vous dire, c'est ma fille, notre deuxième fille qui me l'a fait découvrir. Lisez pas le soir, ça aide pas à dormir. C'est la photo que vous voyez là, c'est quelque chose qui était mis au cou des esclaves fugitifs pour les empêcher de s'enfuir dans les sous-bois, parce que avec ce qu'ils avaient autour du cou, ça s'accroche dans les branches et ils peuvent pas s'éloigner bien vite. Et je vous passe le reste. Ça, c'est le moins cruel. Donc, c'est intéressant de lire cette histoire, de connaître. Alors, bien sûr, on peut connaître l'histoire du nazisme. Il y a des tas de choses dont il faut faire mémoire. Mais le sujet de ce soir, c'est le racisme. Donc, voilà, on parle de ça. Mais ce genre de nouvel op, c'est très utile pour découvrir, pour comprendre un petit peu. Il date de 2014, c'est ça ? Ouais, 2014, si j'en crois, j'ai un peu de mal. Ah, 2021, non, 2021, avril 2021, pardon, et le 2014, c'était pas une date. Voilà l'histoire de la colonisation de nos différents pays d'Europe occidentale en Afrique. Voilà, c'est des choses dont on doit, je pense que c'est un devoir chrétien d'avoir cette mémoire-là. Et dans l'Église, que cette mémoire-là ne soit pas effacée, oubliée. N'oubliez pas que c'est ce qui a fait naître le mouvement des réveillés, du wokisme. Donc n'appelons pas ce mouvement dans l'Église et n'ayons pas dans l'Église un silence devant ces réalités. Et puis on a parmi nous des Antillais, des Africains. On n'a pas le droit d'ignorer cette époque. De la même manière que si on a des Juifs, on n'a pas le droit d'oublier, d'une part, leur appartenance au peuple d'Israël, historique, voilà. Et d'autre part, la Shoah. Toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de les oublier en tant qu'Église. C'est notre devoir chrétien de faire mémoire, de garder mémoire. Alors, je termine cette première partie en disant qu'il y a un équilibre à trouver en tant qu'Église, et je n'ai pas la recette, entre trois choses. D'une part, la victimisation. Ah, vous, les pauvres Antillais, hein, là là... vous êtes descendants d'esclaves, de réduire quelque part les Noirs, les Antillais, les Métis, les ceci, les Capverdiens, tiens, etc., etc., de les réduire à l'esclavage, quoi. Bon, ça fait un petit moment quand même que l'esclavage est fini, hein, donc même s'il y a une mémoire qui peut être blessée, quand même. D'autre part, l'indifférence. On se fout de votre histoire. On se fiche de savoir que vos ancêtres étaient esclaves. Pour nous, les Antilles, c'est les cartes postales, c'est tout. Ça, il ne faut pas non plus, je l'ai dit. Et puis la troisième chose, et ça, je dois ça à Jean-Claude Girondin. C'est un Antillais qui a passé sa thèse de doctorat sur les églises ethniques et qui a écrit un petit livre que je vous recommande aussi. Je citerai un peu plus. Martin Luther King, Le rêve de la communauté bien-aimée. Et il parle de l'exotisation. Des Antillais. Ah, vous les Antillais, vous dansez bien, hein. Puis vous aimez bien la noix de coco, hein. Alors on réduit les Antillais, puis les Africains, vous avez le rythme dans le sang, hein. On leur dit tout le temps ça. Le pauvre Africain qui n'a pas le rythme dans le sang, on réduit les personnes à leur culture. Et alors on pense leur faire plaisir, hein. C'est comme quand quelqu'un dit ah, moi j'aime bien les Noirs. Pourquoi t'aimes bien les Noirs? J'ai entendu des gens dire ça. Hein. Pourquoi ? on réduit les gens à leur culture. Non, c'est des gens normaux, en fait. C'est des personnes qui ont leur mauvais côté, leur bon côté, etc. Donc, il faut trouver un équilibre dans la mémoire qu'on garde de nos histoires entre la victimisation, l'indifférence et l'exotisation. Des remarques, des réactions? Vous avez envie de réagir? Alors, un petit témoignage. Je suis allé au Cap-Vert avec la famille Gomez, hein, j'ai passé une semaine. Pardon, je n'aurais pas dû dire leur nom, mais bon, bah, des Gomez, il y en a beaucoup dans le monde. Donc, voilà. Et à un moment donné, je suis allé dans un salon de coiffure. Oui, j'ai des cheveux. Oui. Et alors, c'est mon ami, je ne vais pas le citer, qui m'y a amené, et j'étais le seul blanc. C'est pas étonnant. Et je me suis dit, mais tiens, voilà ce que ressentent nos... Enfin, quand il y a un noir qui est dans un endroit, un salon de coiffure, il n'y a que des blancs, ben moi, je suis dans cette situation, je suis seul blanc dans un salon de coiffure, il n'y a que des noirs. Du coup, je n'ai pas les mêmes cheveux qu'eux, et je n'ai pas la même couleur de peau, puis ça se voit tout de suite que je suis différent, et je sens que tu es regardé, et le moindre truc qui est dit sur toi... Eh ben, tu le prends, quoi. C'est la moindre remarque, tu te demandes si c'est pour toi, t'as peur de faire une gaffe. Du coup, ce qui m'est venu, c'est la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent, ou ce qu'ils fassent pour vous, de Jésus. Enfin, je cite quand même un texte de la Bible. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cette idée. Quand on a quelqu'un de différent pour la couleur de peau, par exemple, n'oublions pas de le traiter comme une personne normale, hein, et pas de sauter sur lui en disant « Ah, j'aime bien aussi la noix de coco ». Être à l'écoute et savoir se taire, savoir écouter, recevoir la personne, pas dire des trucs pour meubler, mais je sais pas, j'ai envie de dire savoir se taire dans ce domaine. Mieux vaut se taire et laisser passer pour un imbécile que de parler et de prouver qu'on en est un. Et puis, accepter l'égalité autant que les différences aussi. Je trouve que c'est important, comme tu le disais, de ne pas avoir un paradigme dans la tête. Il est noir, donc il est inférieur, je suis blanc, etc. Non, on est différents. Ce serait dommage de ne pas saluer la diversité dans laquelle Dieu nous a créés tous humains. Mais en même temps, égalité et différence, de savoir accepter le tout. Des remarques, des questions, des compléments, des témoignages?
Dans les trois choses que tu dis, on peut s'y retrouver à des degrés divers, chacun, avec les clichés qu'on peut avoir, effectivement. Adine, toi, tu disais qu'on a des fois même depuis l'enfance, parce qu'il y a une parole qui nous a dit quelque chose comme ça. Je pense que, disons, l'idée, c'est de se dire... Ben finalement, le racisme, on en a un peu, peut-être pas énormément, mais on en a quand même un peu, et on aimerait en avoir moins. Et c'est quelque chose que... ouais, voilà, je ne sais pas comment dire, c'est presque comme si l'homme, avec le péché, fait des différences, des choses mauvaises, quoi. Oui. Certaines belles différences, des choses qui sont perverties, quoi. Je pense que ouais, à des degrés divers, on peut retrouver même dans notre façon de penser certaines choses que tu as dit.
Oui, vas-y, Abine.
Il ne faut pas avoir peur de déconstruire, et puis on est en sécurité, quoi. Quand avec Dieu, quand on déconstruit, on est en sécurité, quoi.
Non, mais c'est bien. Et l'idée, alors pour déconstruire, je pense qu'un élément important, c'est d'entrer en relation. C'est d'aller à la découverte de personnes d'autres, j'allais dire d'autres races, mais on sait que le mot est impropre. Hein, on voit qu'elles sont différentes. La tendance, ce serait de dire « Ah, mais non ». Eh bien, notre petite voix, ce soir, elle va nous dire « Ah, bah si ». Il faut aller discuter tranquillement. Créer du lien.
Je veux dire quelque chose.
Oui.
Je me suis adressé à un collègue quand, en travaillant. C'était quelqu'un qui était dans une colonie française, qui est en face des personnes au sud de l'Afrique. Alors, une ancienne colonie française.
Une ancienne, oui.
C'est Madagascar. Mm-hmm. Et en face de Madagascar, il y a...
Ah, il y a l'île Maurice ou l'île de la Réunion.
L'île de la Réunion. C'était un réunionnais. Alors, je viens le voir. Je lui dis, ah ben ça, pour toi, ça va bien. C'était déjà quelqu'un qui avait fait carrière à Peugeot. Il avait au moins 50 ans. Il avait gravi tous les échelons. Et puis, il était reconnu pour sa qualité de travail et tout ça. Alors, j'ai oublié son nom, c'est dommage. Alors, je viens lui dire, je lui dis, mais tu vois, tu as bien avancé dans ton travail, chez Peugeot, etc. Tu dois être content. Enfin, je sais pas, ça m'est sorti comme ça. Là, je suis des grégoires vite fait. Il a dit, tu te rends pas compte ce qu'on vit, nous, le regard des autres. Je lui dis, mais tout le monde était correct avec lui. Au contraire, on lui demandait des conseils. Parce que c'était un très bon élément. Il savait comprendre et faire des choses que d'autres ne savaient pas faire. Alors on le valorisait plutôt. Et moi, je voulais lui faire remarquer ça. J'ai dit, toi, t'as fait une bonne carrière. Il m'a rentré, il m'a sorti ça. Alors moi, ça m'a donné une douche froide. Parce que lui, il sentait le regard, un certain regard de tous ceux qui étaient autour de lui. Alors que lui, il était très bon. On le critiquait jamais pour son travail. Parce qu'il avait été sérieux pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et mon compliment, ou mon encouragement, ou mon appréciation positive sur lui, ben, ça a fait un plouf.
C'est tombé à côté, quoi.
Oui, oui. Mmh. Ça m'a choqué. Mmh. Je me suis dit, ils souffrent tellement, ces personnes. On ne voit rien, on n'entend rien. Ils ne disaient jamais rien. Ils ne se plaignaient jamais. Mais intérieurement, il y avait une souffrance. Ouais. Voilà. Je voulais le dire parce que ça m'a...
Je me demande si le réflexe de racisme, on ne le trouve pas aussi ailleurs. Je veux dire, ça c'est un gamin, qu'est-ce qu'il sait déjà? Allez vieux, de toute manière, qu'est-ce que tu veux déjà leur demander? Ça c'est des femmes, ouais, bon, les femmes.
Oui.
Je veux dire, enfin, est-ce qu'il s'agit du même regard caricaturant qu'on a dans plein de situations? Ça c'est un chauve, enfin, ouais.
Raciste. C'est simplement la différence.
L'autre oui, c'est...
est différent de moi, qu'il soit une femme, petit, grand, noir. C'est pas toujours une question de couleur, le racisme.
Oui. En l'occurrence, c'est une question de couleur, mais d'origine, voilà. Mais comme tu dis, le racisme, là on parle de la race, donc c'est tout ce qui c'est cette théorie, mais tu dis toi finalement que dès que quelqu'un est différent de nous, on a ces attitudes-là.
Des clichés aussi.
Oui, ouais, on les réduit à l'image qu'on a d'eux-mêmes. Donc on a deux.
Sur la région aussi.
Sur la région. Ouais. Ouais, mais si tu regardes notre histoire, qui quand tu habites Valence va s'intéresser à l'histoire de l'Alsace, les malgré nous, l'Alsace arrachée entre l'Allemagne et la France et ce genre de choses. Qui connaît ça de quand tu vas à Toulouse ou à Valence? Personne.
Et pour repenser à la réflexion que tu as eue, Claude, ça me fait penser à des personnes, par exemple, en l'occurrence, c'était un noir. Je pense que s'est peut-être dit, est-ce que tu aurais fait la même réflexion à quelqu'un d'autre qui vient d'une autre région?
C'est ça.
Alors toi, ouais. Tu as bien gravi les échelons, hein, bravo, ouais. Tu as bien réussi.
Ouais. Ça veut dire que tu parles de très bas.
Pourquoi pas le petit noir? Alors toi, le noir, tu as quand même réussi, bravo.
Ouais, c'est ça.
Je crois que c'est quand... capté ça comme ça.
Voilà, et c'est quand on ne voit plus les différences ou quand on n'a même plus besoin de dire la remarque,
oui,
qu'on se trouve normal et pareil que les autres, parce qu'il n'y a pas eu besoin de remarques, même positives.
Je ne sais plus où j'ai lu dans un des livres là, qu'un jeune vient et parle de son ami ou d'une rencontre qu'il a fait, et puis c'est dans une église, et puis la personne dit, mais pour le décrire, il est comment? Déjà, il est blanc ou il est noir? Et le jeune, il répond, je ne sais pas.
Voilà.
Ça veut dire qu'il n'a pas vu, la couleur de peau n'importait pas, à tel point qu'il ne sait pas, il ne savait plus dire.
C'est la fille de Gordon.
C'est dans le livre de Gordon,
ouais.
Bon, bah, je le cite dans un instant. Enfin, tout à l'heure, je le citerai. Bah, je peux le montrer maintenant. Guide pratique du travail pastoral, Gordon Marjorie, pasteur de l'association baptiste, qu'on ne présente plus, et qui a écrit un chapitre sur la diversité culturelle. Ben, je vais vous citer un autre article dans un livre, La foi chrétienne et les défis du monde contemporain. C'est un article d'Ananisius, qui lui-même est guadeloupéen, sauf erreur, je crois, mais j'ai un doute. Ouais. Et qui parle du racisme. Donc je voulais aborder le deuxième point, on a encore un petit peu de temps. L'Église et le racisme. Alors pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des églises ethniques? C'est-à-dire des églises, on a ici avec la pierre précieuse dans le quartier, on a une église où ce sont des Africains qui sont là en grande majorité. Après, il y a des blancs, pour prendre l'expression consacrée, qui vont aussi là, hein, à commencer par la femme du pasteur, oui, qui est blanche. Mais Josiane, elle s'appelle, je crois. Il y a plusieurs raisons qu'Alanisus dit, je vais pas lire en fait, je vais simplement le dire. Les Africains, quand ils viennent dans des églises du coin, en Europe occidentale en tout cas, on parle de ce qu'on connaît, hein, peut-être ailleurs aussi, hein, font face à certaines attitudes racistes de certains chrétiens, on ne va pas forcément dire ex-cathédra depuis le pupitre, mais ils font face parfois à des attitudes racistes, et il me semble pouvoir dire que dans notre église, on a pu avoir ce genre de propos à l'encontre de personnes venant d'Afrique ou des Antilles. Deuxièmement, ce sont des personnes qui souffrent de l'indifférence. C'est-à-dire, à la fois, c'est important de les prendre en compte avec leur histoire et leur identité, mais sans les traiter différemment des autres. Donc, on a une position d'équilibre à avoir. Et en tout cas, ce que Alanisius dit, c'est que... j'ai mis le marque-page au mauvais endroit, je suis désolé. Des églises indépendantes, non, c'est pas ça. Bon, tant pis pour moi. Faible volonté d'accueil, c'était le mot. Et troisième mot, critique de l'envahissement. Ah, mais on n'est plus chez nous ici, parce qu'ici on commence à avoir dans une bonne église bien blanche trop d'Africains et trop d'Antillais. Vous en avez toujours un qui va dire, mais on n'est plus chez nous ici. Et ça, ça peut être très blessant, c'est des paroles qui sont très blessantes. Et donc, les Antillais ou les Africains quittent ces églises-là et vont se dire, on va aller dans un lieu où on ne va pas se prendre ce genre de coups et on va se retrouver entre nous. Et c'est ce qu'on appelle des églises d'expression africaine. Il y a une union d'églises en France qui s'appelle Communauté et Assemblée d'expression africaine, ou quelque chose comme ça, dont fait partie la pierre précieuse à côté de nous. J'ai pas mal discuté aussi avec d'autres, c'est une autre source qui parle de, aussi, il y a un certain nombre de personnes qui immigrent, qui viennent pour des raisons X, Y, Z, et qui trouvent dans ces églises d'expression africaine un lieu de sécurité parce que la culture dans laquelle ils arrivent leur est étrangère. Et là, dans cette église-là, au moins, on peut parler la langue du pays qu'on a quitté. On a des gens qui nous expliquent « Ah, mais attends, ici, dans le pays, c'est comme ça que ça se passe. Il y a tel point de la culture. » Et donc, ça peut avoir la fonction d'un sas, en quelque sorte. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur les églises d'expression africaine.
Quelquefois, quand les personnes d'origine africaine ou, par exemple, anglophone, c'est aussi leur choix de se retrouver dans leur culture. Ce n'est pas forcément parce qu'ils se sentent rejetés dans une autre église. Oui. C'est quelquefois le désir de vivre un culte à l'africaine. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qui ont le désir, dès le départ, d'être dans ce milieu comme cela.
Oui, ça peut être le cas aussi. Moi, je résume ce que disait Alanisius, mais...
Tout à fait. C'est ça.
Oui, c'est pas forcément...
Ils aiment se retrouver.
Il y a ce qu'on appelle l'instinct grégaire, c'est-à-dire on partage la même culture, on partage le même... le même environnement, et on se retrouve entre nous, on est beaucoup mieux.
C'est ça.
Oui. Pas plus. Mm.
Ouais, alors c'est pas forcément négatif.
Oui, c'est ça. Alors,
voilà, c'est ça qui est bien de lire. C'est pas parce qu'il y a des communautés, c'est pas parce qu'on est des gros méchants, nous, les églises blanches, je sais pas ce que je dois dire, qu'il y a des églises ethniques, mais il y a quand même cette cause-là, mais pas que. Alors je voudrais quand même rendre justice à un pasteur baptiste, donc Martin Luther King, qui lui a donc fait un rêve, vous le savez, hein, I have a dream. Et il y a beaucoup de livres que la bibliothèque a sur Martin Luther King, mais j'ai choisi Jean-Claude Jérôme parce qu'il a fait un travail dans le cadre de sa réflexion sur les églises ethniques, justement. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire le début, au moins, du rêve de Martin Luther King. Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour être frères. Je fais encore le rêve ce matin qu'un jour, chaque étranger de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier, soit jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la couleur de sa peau, et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Je fais encore le rêve qu'un jour, la justice ruissellera comme l'eau et la droiture comme un fleuve puissant. Je fais encore le rêve aujourd'hui que dans toutes les hautes sphères de l'État et dans toutes les municipalités entreront des citoyens élus qui rendront justice, aimeront la pitié et marcheront humblement dans les voies de leur Dieu. Je fais encore le rêve, je me demande si c'est pas la piété en fait, parce que c'est une allusion à Miché ça. Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre prendra fin, que les hommes transformeront leurs épées en socs de charrues et leur lance en ébranchoir, que les nations ne s'élèveront plus les unes contre les autres et qu'elles n'envisageront plus la guerre. Je fais encore le rêve que grâce à cette foi, nous serons capables de repousser au loin les tentations de désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimiste. Oui, grâce à cette foi, nous serons capables de hâter le jour où la paix régnera sur la terre et la bonne volonté entre les hommes. Ce sera un jour merveilleux, les étoiles chanteront ensemble et les fils de Dieu pousseront des cris de joie. Fin de citation. Alors on peut penser ce qu'on veut des questions théologiques hein, que ce texte pose, c'est pas notre sujet de ce soir. En revanche, ce qu'on voit, c'est que le rêve de Martin Luther King, c'était, d'où le titre, une communauté bien aimée, une communauté où on s'aime bien, on pourrait dire aussi. Et je trouve le développement intéressant, et j'aimerais vous lire, pour finir ma citation de ce livre, un autre extrait d'un texte de Martin Luther King, qui je pense peut nous concerner, nous, en tant qu'Église. L'Église doit se souvenir qu'elle ne domine ni ne sert l'État, mais qu'elle en est la conscience. Elle doit en être le guide et le critique, jamais un instrument. Si elle ne retrouve pas son ardeur prophétique, elle deviendra un club social inutile, sans autorité morale ou spirituelle. Si elle ne participe pas activement à la lutte pour la paix et la justice économique et raciale, elle trahira la fidélité de millions d'hommes et les poussera partout à dire qu'elle a laissé s'atrophier sa volonté. Voilà, j'arrête là la citation. Disons que Martin Luther King est reconnu pour sa lutte contre le racisme, et il avait affaire à des chrétiens. Un dernier point sur l'Église et racisme, avant d'ouvrir aux questions et aux remarques, c'est la question des mariages mixtes entre blancs et noirs, parce que entre hommes et femmes mixtes, on comprend, mais c'est mixte entre blancs et noirs, pour faire court. Je sais que nous, quand on s'est commencé à faire le projet de mariage, on nous l'a dit, on nous a fait remarquer, certes, dans certains facteurs, pas dans le milieu qu'on a aujourd'hui, pas du tout, on est très nombreux à être dans des couples mixtes, mais ça a été, dans les familles, c'est peut-être pas si simple, dans certaines églises à tendance peut-être droite ou extrême droite, je sais pas, il y a peut-être encore de la vigilance à avoir. En tout cas, moi je suis heureux que dans ce domaine, on ait une église, on soit dans une église, nous soyons une église qui ne s'élève pas contre des mariages entre personnes de couleurs de peau différentes. C'est peut-être un signe quelque part, je ne sais pas. Je suis assez mal placé pour en parler. Voilà, est-ce que avant d'aborder le dernier point, il y a des remarques, des questions, des témoignages ?
Je voudrais revenir sur « Ah, on n'est plus de chez nous ».
Oui.
Et je pense que des fois, c'est une réaction qui peut être suscitée aussi par une identité qui n'est pas très, très solide. Enfin, si on a besoin que le monde autour de nous soit comme on l'imagine pour que nous on soit bien, c'est que finalement, est-ce qu'on sait vraiment qui on est, quoi? Et donc, construire et renforcer toujours notre identité. Moi, je reviens souvent à la question d'identité parce que je trouve que c'est vraiment une clé pour comprendre beaucoup de problèmes. Et plus on sait, ben voilà, que, déjà que là où on vit et notre vie, c'est un cadeau que Dieu nous fait, ben, et puis que notre identité, elle est en lui, eh ben, on acceptera plus des différences autour de nous, quoi. Quand si on a besoin que voilà, mon voisin il soit comme ça, le gars chez qui je vais acheter ma pomme le matin il soit comme ça, si on a besoin que tout soit comme ça, comme ça, comme ça, finalement soi-même on ne sait pas trop qui on est, quoi. Enfin, il me semble. Mm-hmm. Donc plus on sait qui on est, plus on peut accepter les différences, il me semble. Mm-hmm. Voilà. Je sais pas si c'est. Voilà. Il me semble.
Merci Adeline. Oui.
Il y a des différences qui peuvent aussi être perçues comme du racisme. Si quelqu'un qui vient de la culture africaine et qui a toujours beaucoup vécu avec d'autres personnes, très proches, dans l'église, etc., puis vient chez nous, puis nous on salue quelqu'un, puis on dit bonjour, et puis on pense qu'avec ça j'ai fait mon devoir de proximité, pour que l'on va saluer. Moi j'ai l'impression d'avoir fait un maximum, et puis lui a l'impression que je suis ignoré. Et j'ignore qu'il ignore. Enfin, j'ignore qu'il pense comme ça. Donc je trouve que c'est pas évident dans mes relations. Enfin. Si moi je ne suis pas à l'aise dans mon identité, chaque fois que quelqu'un me regarde de travers, il dit ça y est, c'est parce que je suis chauve, c'est parce que je suis gros, c'est parce que voilà, je suis gros. Ben, voilà. En fait, ça n'a rien à voir. Mais c'est moi qui pense comme ça. Mais l'autre pense aussi comme ça. Donc, toi, quand tu es tout seul chez le coiffeur, il y a d'autres gens qui sont tout seuls comme ça chez nous et qui peuvent se sentir bizarres sans que je les fasse sentir bizarres. Je peux vous raconter un faux pas que j'ai eu. Notre famille africaine, je me suis dit, ah, je suis de nettoyage la semaine. Après le repas en commun, je vais vite nettoyer parce qu'il y avait pas mal de choses par là. Et puis je me dis avant que les gens écrasent tout ça, puis écrabouillent tout ça. Donc je vais chercher une balayette et je vais suivre. Et le monsieur voit ça, catastrophique, il me dit donnez-moi ça. Je dis attends, non, c'est pas. Je veux dire, un monsieur africain, il ne va pas nettoyer ça. Il lui passe directement la balayette à sa femme pour qu'elle nettoie. Puis je me suis dit, je suis un imbécile, mais j'ai fait un faux pas. Tu vois, de balayer juste là. Tu vois, juste là, comme pour les faire ressentir qu'ils ne savent pas se comporter comme nous on voudrait bien qu'ils se comportent. Et puis je me suis dit, j'ai mis les deux pieds. Dans l'illette. Et puis je me dis, mais est-ce qu'on fait ça tout le temps? Enfin, souvent, tu vois.
Et c'est aussi peut-être parce que tu étais plus âgé.
Oui, c'est ça.
Le respect des personnes âgées.
Enfin, j'aurais pas dû. Enfin, on va chercher des excuses. Juste pour dire que, on fait des erreurs qui, culturellement parlant, sont mal vues. Et on peut être accusé de racisme quand en fait on était à 10 000 lieues de penser à du racisme, mais pourtant le comportement était différent. Enfin,
peut-être aussi ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où on a compris qu'on est tous égaux, qu'il n'y a pas de différence de nature, et ben c'est là que le travail commence. Parce que du coup, il faut apprendre à connaître la personne. Et puis donc là, il y a un grand chantier. Hein, là, tout qui commence. Hein. C'est pas la fin de l'histoire, c'est le début.
Je pourrais dire quelque chose. Quand j'étais dans l'association pour les colis alimentaires, il y a toutes sortes de personnes et on parlait d'une personne et cette personne ne savait pas. Et j'ai montré, elle a dit, ah, c'est la noire. Alors qu'on pourrait dire, c'est l'africaine ou c'est le congolais ou c'est... De donner le nom du pays au lieu de moi, on m'a jamais dit.
C'est la blanche.
Mais on m'a jamais dit, c'est la blanche. Que je viens de nous. Mais aussi dire, quand on voit quelqu'un, dire eh bien, c'est cette personne qui vient du Congo.
Mais on ne sait peut-être pas d'où elle vient.
Des fois aussi.
Ou le prénom.
Moi, je le savais, alors je peux dire, elle vient du Congo. Par exemple, c'est cette personne-là. Donc, elle n'aura pas compris que. C'est pas leur même. Mais on devrait plutôt dire d'où elle vient au lieu de dire la couleur.
Ouais, enfin, des fois, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Mais à partir du moment où on peut parler des couleurs, si on dit c'est la noire de cette manière-là, là, il y a un arrière-plan raciste. Si on dit ah oui, c'est la personne qui est. Ah oui, elle est noire. Elle est pas, elle est, ou alors elle est asiatique. Elle est,
elle est africaine.
Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est une caractéristique physique. Il ne faut pas non plus, éviter de citer. Ça peut être un élément. Ah oui, c'est le chauve, par exemple. C'est le grand. C'est le noir là qui. on pourrait le dire de cette manière-là, si on a dépassé si c'est juste une description physique, c'est tout.
Ben non, on a tout ça.
Non, mais si on ne connaît pas la personne.
Non, et si on ne connaît pas.
Ça fait partie de la description physique qu'il faut oser faire, mais pas que la couleur de peau, il y a mille autres choses. La couleur du pull, ouais.
Non, mais j'ai
dit la couleur.
Si on connaît pas du tout la difficile. Parce que moi, il m'est déjà arrivé de dire la personne de couleur. Parce qu'il ne faut pas dire ça, quoi.
Mais peut-être qu'on va trop loin, là aussi. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai l'habitude.
Quand tu dis la personne de couleur. Toi, t'as quelle couleur?
Ben moi, toutes les couleurs. Quand j'ai peur, je suis verte. Quand j'ai chaud, je suis rouge. Quand je suis blanche, quand j'ai de la fièvre.
Donc, ça veut dire que le mot noir, il a pris un peu. Avant, on disait nègre. Et nègre, aujourd'hui, c'est vraiment un gros mot. Parce que là, ça correspond vraiment à une position raciste. Hein, le nègre, c'est vraiment la personne qui est du peuple esclave. Donc, ça, c'est un mot qu'à mon avis, il faut vraiment proscrire. Une personne noire, pour moi je mets un N majuscule, et je veux dire, voilà, une personne métisse, moi je dirais noire de peau par exemple, pour éviter, ou à la peau très, très foncée, enfin, ou alors c'est un roux, c'est un blond, ça fait partie des caractéristiques physiques. Qu'il faut pouvoir citer, il faut pas aller non plus dans un excès de. Qu'est-ce que je dois dire? De pudeur. On n'ose pas décrire les personnes. C'est dommage. Justement, c'est dommage. On n'ose pas dire qu'elle est noire, qu'elle est blanche, qu'il est blanc, qu'il est noir. On nous a privés de cette liberté-là. Il n'y a aucune condescendance, rien du tout. Sauf dans la manière de le dire, peut-être. Et si on réduit la personne, quand tu sais qu'elle s'appelle Gisèle, la dame, si tu dis toujours la noire au lieu de dire Gisèle, là oui. Mais si tu dis bonjour Gisèle, au lieu de dire, tu ne vas pas dire bonjour la noire, si c'est bonjour la noire, ça c'est du racisme. Oui.
Mais s'il y a 9 personnes blanches, comment tu vas les décrire si tu dois dire, par exemple, reconnaître Edith? Est-ce que tu vas dire la blanche? C'est la quatrième blanche? tu diras c'est celle qui a le t-shirt blanc.
Si t'es en Afrique, si j'étais au Cap-Vert par exemple, si j'ai dit ah oui au fait j'ai rencontré un gars, il est noir, là j'aurais eu l'air d'un plouc. En revanche, si les Cap-Verdiens disent tu te souviens du blanc qui est venu l'autre jour au salon de coiffure, ils vont dire forcément ils vont penser à moi. C'est parce que il y a des caractéristiques qui sont distinctives qu'on les cite. Effectivement, si là, autour de la table, on est une majorité de blancs, on ne va pas dire il est blanc. Mais ça fait partie des choses qui sont à manier avec précaution, mais il me semble qu'on peut les manipuler. Quand je te désigne, c'est qui votre femme? Je dis, c'est la grande antillaise qui est là-bas. Je dis que tu es antillaise.
Mais tu ne vas pas dire, c'est la noire qui est là-bas.
Déjà, tout le monde est noir. Ou alors, je dirais, elle est métisse. Cette distinction-là de ta couleur de peau. Voilà. Tu penses bien que moi, je n'ai pas de racisme à ton égard.
Mais je ne vois pas forcément le racisme dans le mot. Simplement que dans un groupe, pourquoi faire remarquer la couleur? Mais bon, je comprends ce que
un élément de description. Si on s'arrête à ça, effectivement, ça devient très vite.
Non, je sais que ça peut vexer. Oui. Moi, ça ne me vexe pas, mais je sais que ça peut vexer.
C'est-à-dire que ça peut vexer dans la mesure où c'est rentré dans le langage populaire.
Oui.
Quand tu dis noir, c'est négatif.
C'est ça qui est dommage.
Oui. Même si toi, tu as des pensées nobles, mais à partir du moment où tu le prononces dans un contexte où on utilise ce terme-là pour désigner des gens inférieurs...
C'est ça qui est dommage.
Oui.
Qu'on ne puisse pas juste dire parler de la couleur de peau sans dire autre chose.
Mais quand on demande à quelqu'un, quand quelqu'un nous demande de décrire quelqu'un d'autre, on est toujours embêté parce qu'on dit elle est vieille, peut-être qu'elle ne se trouve pas vieille. Elle est un peu ronde, peut-être que pas. Elle est très maigre, c'est pas gentil non plus. Je veux dire, on est toujours mal à l'aise quand on doit décrire quelqu'un.
Oui.
Et puis chacun voit l'autre différemment. En plus, on voit pas la même chose. Quoi. Mmh. Donc, que ce soit parce que c'est noir, parce qu'il est gros, parce qu'elle est maigre, parce que... Mmh.
C'est toujours. Moi, disons, je me permets peut-être, parce que l'heure tourne, je me permets, pardon, de plaider pour qu'on puisse donner dans les indications des éléments comme ça, de couleur de peau. Suivant le contexte, ça peut être utile ou pas, mais qu'on ait cette liberté et qu'on fasse bien sentir que ce n'est pas des éléments qui veulent être réducteurs, blessants, racistes, etc.
C'est juste distinctif.
Distinctif, c'est tout. Et s'il y a une majorité... Par exemple, si je vais à l'église Pierre Précieux, c'est clair que ça ne me sert pas à grand-chose de dire que c'est une personne noire.
Oui.
Et comme ici, c'est une personne blanche, ça ne sert pas à grand-chose. Et peut-être qu'on dirait... Si, par exemple, vous avez des personnes asiatiques, on n'aura pas le même raisonnement. On dirait, oui, c'est la personne asiatique. Là, il n'y a aucun arrière-plan. Tu l'as très bien dit, Géraud. Asiatique, c'est pas... En tout cas pour nous, c'est pas négatif. Dans d'autres cultures, si. Je termine... pardon, tu voulais dire
Non,
vas-y.
Non, je voulais juste un témoignage, peut-être, qui peut être... ça se passe à Fastat, à l'église catholique de Fastat. C'est un Africain, un Camerounais, qui a fait le séminaire de Strasbourg pour devenir prêtre. Il est devenu prêtre, il a commencé à faire son travail ici à Fastat. Et au bout de quelques années, du haut de la chaire, il a crié. Parce que depuis qu'il est là, personne ne l'a jamais invité. Personne, et il a crié sa douleur. Et là, une amie que je connais, qui vient pas souvent à l'église, ce jour-là, elle y était. Et quand elle a entendu ça, elle était choquée, elle est allée le voir, elle l'a invité à la maison, et de fil en aiguille, une amitié s'est installée entre eux. Il l'a emmenée au Cameroun, dans son pays. Et quand il arrive là-bas, comment elle est accueillie, comment elle est prise en compte, elle est tout autant choquée. Elle se dit, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Et ils ont commencé une coopération. Aujourd'hui, ils ont mis en place une association qui s'appelle Afrique Future. Ils ont construit des écoles, des hôpitaux, dans le village du prêtre. Voilà le cri d'une personne qui a abouti à quelque chose de bénéfique.
Une histoire à ce sujet, un pasteur ici à Bâle, africain, qui devait faire un stage dans le cadre de ses études et qui a fait un stage avec moi. Donc il logeait chez nous, là en Suisse, quelques jours par à chaque fois. Et puis on me parlait d'intégration, ça fait 20 ans qu'il est là, etc. Puis comment est-ce qu'il va acheter dans les magasins africains, puis on dit tout, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas les légumes que nous on achète, etc. Et puis il nous a dit, mais tu sais, ça fait 20 ans que je suis en Suisse, mais c'est la première fois que je suis invité dans une famille non africaine. Alors moi qui disais toujours, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intégré, ça fait 20 ans qu'ils sont là, mais en fait, j'ai rien fait pour l'intégrer, quoi. Enfin, en général, je veux dire. J'étais surpris de voir que finalement, j'étais très réticent à inviter. Enfin, en disant, voilà.
Peut-être que le début de la solution, c'est ce qu'on fait ce soir, c'est d'en parler.
Ouais.
Puis après, chacun donnera suite comme il voudra. Alors, j'ai encore une petite page de notes. L'Église et les cultures, maintenant. On a dit, tu as dit notamment qu'il faut distinguer entre la culture et les races, entre guillemets, races, hein, bien sûr. Oui. Alors, je prends juste un exemple. En ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Allez dire à un Russe qui est blanc que c'est un Européen, qu'il a la même culture que les Européens, ils nous font bien sentir qu'ils ne sont pas de culture occidentale, les Russes blancs. Hein, ils sont blancs comme nous, si je puis dire. Quand je dis nous, c'est moi, en tant que blanc, on n'est pas tous blancs. Mais donc, la différence de culture, ce n'est pas la différence de couleur de peau. En revanche, des Antillais qui ont vécu en France depuis plusieurs générations sont beaucoup plus proches. On partage 90% de la culture. Alors qu'avec les Russes qui sont blancs, je partagerai sans doute pas grand-chose. Faut quand même, il y a comme ça des choses étonnantes. À Jocelyne et moi, on nous a dit, ah mais vous n'êtes pas de la même culture, hein, vraiment. Alors que dans le même univers, il y avait un Français qui épousait un Américain, Nord-Américain. c'est pareil, la différence de culture, elle était bien plus grande, mais ils étaient tous les deux blancs, donc on leur disait rien. Intéressant. Donc oui, la culture, ça, c'est pas la même chose que la couleur de peau. Ceci dit, je rejoins ce que tu disais, Mathias, et c'est Gordon Margerie, donc dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Les différences culturelles ne sont pas génétiques, elles sont acquises. Elles ne disparaissent pas quand on dit qu'il y a une seule race humaine et que nous sommes tous un en Christ. Elles sont réelles. Quelques exemples. La piété blanche privilégie l'intériorité, le recueillement, la réflexion, le calme. La piété antillaise et africaine, enfin, je sais que certains d'entre nous ne se reconnaîtront pas là-dedans, aime une musique dynamique, s'exprime de façon plus corporelle, s'extériorise plus facilement. Bon, attention, hein, c'est... pour mes amis africains, la mort est omniprésente, l'accompagnement des personnes endeuillées est très important. Pour les Européens, la mort a quasiment disparu de la place publique et on veille à ne pas trop déranger les personnes endeuillées. Les liens familiaux sont très forts et très étendus en Afrique. Ils sont faibles en Europe et souvent limités aux ascendants et descendants directs. L'éducation française nous a appris l'esprit critique. L'éducation africaine traditionnelle inculque le respect de l'autorité des parents et des enseignants. Une famille européenne appréciera la première visite du pasteur, mais dans certaines familles africaines ou haïtiennes, il devra rester pour manger, quelle que soit l'heure. Voilà quelques exemples. Et il dit bien, hein, il dit bien que c'est pas, c'est des exemples qui ont leurs limites. Hein. Il y a des stéréotypes peut-être dont il faut se libérer. Bon, voilà, il y a une diversité culturelle qui n'est pas toujours simple à vivre. Mathias, tu en as donné quelques exemples tout à l'heure. Mais c'est un message. Je rejoins un petit peu le propos de Martin Luther King que je vous ai cité ici. Quand l'Église a une fonction prophétique, qu'est-ce qu'il faut faire de ces diversités culturelles? Il faut essayer de réussir de les vivre ensemble dans la paix. Pas faire disparaître les cultures qui arrivent de l'extérieur, et pas non plus stigmatiser, exacerber ces cultures-là au point qu'on nie la culture déjà présente dans la communauté. C'est tout un art d'avoir une identité forte, et je pense qu'on a besoin d'avoir une identité forte en tant qu'Église. On a notre histoire, ça fait un siècle et demi qu'on est là, voilà, on a des fondateurs, on a un patrimoine culturel, religieux, spirituel. Puis, en même temps, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui apportent autre chose. Alors, il faut trouver la juste mesure entre se barricader et dire « Non, nous, on veut pas », et puis devenir un moulin à vent dans lequel il y a plus d'esprit, parce que chacun apporte ce qu'il veut, c'est l'auberge espagnole, chacun apporte de manger, et puis il faut que le dernier arrivé soit celui qui emporte la... Dont la culture est retenue, ça ne va pas non plus. Donc il faut trouver cet équilibre-là, savoureux, hein, j'espère, mais qui n'est pas facile. Comme tout équilibre, il est précaire. Alors voilà, ma conclusion, c'est que justement, l'équilibre est un défi entre ce que je viens de dire, hein, avoir une identité forte et savoir accueillir d'autres cultures et évoluer en accueillant ces autres cultures. Et on ne se rend pas compte, mais c'est ce qu'on a fait. Moi, ça fait 30 ans que je suis ici, je vois déjà qu'il y a eu une certaine évolution quand même, parce qu'on a su accueillir d'autres cultures. Et alors qu'avant, nos prédécesseurs ne faisaient pas du tout comme on fait aujourd'hui. Hein. Et donc, enfin, nos prédécesseurs et nos plus anciens parmi nous, hein, pardon, vous êtes là, et vous avez constaté, vous, cette différence. Et vous avez accueilli ces différences tout en gardant l'esprit maison. Donc, pour moi, c'est un équilibre qu'il faut rechercher. Et qui évolue. Et puis, je rappelle aussi la fonction prophétique de l'Église, c'est-à-dire nous, Église, communauté variée, nous avons à dire au monde que c'est possible de vivre avec cette variété-là entre nous, cette variété de culture. C'est possible et même c'est bien, c'est quelque chose que nous, pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Et c'est un des témoignages de notre foi. Je disais tout à l'heure, avant que l'enregistrement commence, que notre parc, dans ce quartier en souffrance, il est un témoignage en soi. Et le commandant de police nous encourage à continuer ce beau travail que les costauds font, hein, entre autres. Mais aussi, notre vivre ensemble est un message en soi. Abine.
Ben, ça rejoint exactement ce que tu dis. Donc, en fait, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est peut-être quelque chose que tout le monde a déjà vécu dans un contexte ou un autre. Ça se termine en queue de poisson, je vous dis tout de suite. Donc, c'est une, c'était ma première année à Nogent. Donc, voilà, on est plusieurs à avoir fait Nogent. Donc, c'était ma première année à Nogent. Et au début de l'année, ils voulaient nous faire une visite du Louvre, de la partie, je pense que la même que tu nous avais fait, Mathieu. Et donc, en fait, voilà, c'était la première année. Il y avait des gens d'origine asiatique, des Antillais, des Africains, des Européens, des Blancs, enfin voilà, tout le monde. Et puis, c'était pas un très grand groupe. Et puis, bon, alors, ça s'est terminé en queue de poisson parce que, voilà, il me semble qu'on n'a pas bien répondu à la question. Il y avait le gars qui nous vendait le billet et puis il nous regardait. Pourtant, à Paris, hein, il y a tout, on voit tout. Hein. Il nous regardait comme ça et puis on voyait qu'il n'arrivait pas à nous mettre dans une catégorie. Parce qu'il y avait aussi des différences d'âge et tout. Puis alors il a demandé comme ça, mais vous êtes qui? Et puis je crois que la prof, elle a pas vraiment répondu à la question. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Mais ça montre vraiment, parce que tu dis, quoi, la dimension prophétique de l'Église, c'est possible. Puis c'est comme une anticipation de ce qu'on connaîtra quand Jésus reviendra, quoi, avec des gens de tous les peuples qui le loueront ensemble. Mmh. Donc voilà, c'était une petite illustration, quoi. Ouais.
C'est une anticipation de ce qu'on verra plus tard, mais en même temps, si on regarde à la Pentecôte, le nombre de nationalités qui sont citées, c'est dans l'ADN de l'Église d'aujourd'hui.
C'est ça, oui, t'as raison.
Ah, les Scythes, les Parthes, les machins, ceux qui venaient d'Afrique du Nord, etc. La diversité culturelle est là à la base, en fait, de l'Église. Dès le départ, ouais. Dès le moment où le Saint-Esprit vient, il y a une diversité culturelle qui est énorme. Les gens venaient de tout le monde connu de l'époque.
Et peut-être c'est important de se souvenir qu'on est dans une église et que peut-être on voit notre pays, là ça c'est le français qui parle, notre pays évoluer avec des difficultés, plein de choses qui nous inquiètent. Mais n'oublions pas que notre devoir de chrétien n'est pas de promouvoir telle ou telle politique nationale, même si on a un devoir citoyen, hein, je ne suis pas le dernier à essayer de m'y employer, mais c'est avant tout notre approche chrétienne. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que nous allons faire en tant que chrétiens dans ce pays qui rencontre telle et telle difficulté? C'est ça la question. Et donc, moi, nous proposons un modèle de communauté qui donne à réfléchir dans le domaine du vivre ensemble. Mais tout à fait, vous avez raison. Il ne faut pas mettre tous les Russes dans le même sac, d'autant plus que cet été, on a eu une violoncelliste extraordinaire à Vichy. Donc, effectivement, vous avez raison. Là, je parle surtout des nationalistes russes, Poutine et autres. Mais vous avez raison de préciser qu'il y a beaucoup de Russes qui ont fui.
C'était une chrétienne, cette femme-là, je sais.
Oui, enfin, nous sommes bien d'accord qu'il ne faut pas mettre les Russes tous dans le même sac. On est tout à fait d'accord. Beaucoup de Russes ont fui la Russie.
Ah, voilà.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Merci. Merci de compléter. On arrête là? On va prier? Je vous propose que quelques personnes d'entre nous prient avant qu'on se sépare.
Seigneur, je te remercie pour ce sujet qui est abordé et je te prie que tu nous aides chacun là où on en est à continuer à avancer, Seigneur. Merci parce que c'est chouette d'avancer avec toi, Seigneur. Amen.
Et quand on voit à quel point, Seigneur, c'est difficile de s'adapter et d'accueillir l'autre, on est d'autant plus émerveillé de savoir que toi, tu as quitté les lieux célestes pour devenir homme et pour vivre parmi nous, pour vivre dans notre culture et nous conduire vers toi. Merci pour cela.
Amen. Amen. Amen.
Nous savons très bien que ce n'est pas sur certains critères de notre personne que tu nous as accueillis dans ton royaume, mais c'est à cause de la grandeur de ton amour. amour universel qui accueille tout le monde. Merci parce que nous pourrions nous sentir indignes quelquefois, parce que nos pensées ne sont pas tes pensées, nos actions ne sont pas celles que tu aimerais que nous réalisons. Et cependant, tu nous accueilles, tu nous pardonnes, tu nous relèves et tu nous montres que nous avons un grand prix à tes yeux. Que nous puissions avoir la même attitude pour les personnes de toutes catégories qui viennent nous visiter et que nous les accueillions comme toi tu nous as accueillis, sans faire de différence, mais en regardant ton œuvre d'amour que tu fais dans la vie de chacune et de chacun de nous. Que ce soit ton amour, la grandeur de ton amour et de ton pardon qui nous motive et qui nous aide à nous accueillir les uns des autres. Merci pour ta grâce qui se renouvelle chaque jour pour chacune et chacun d'entre nous. Amen.
Amen. Merci Seigneur de nous aimer comme nous sommes. Merci de nous aimer tous et toutes à part égale. Merci Seigneur de nous conduire à nous aimer nous maintenant les uns les autres. Et c'est un sujet complexe que nous abordons et nous sommes en chemin. Et merci pour le chemin parcouru et nous te prions que nous sachions poursuivre encore et surtout vivre heureux ensemble. Amen.
Amen.